69, 5. Ça m'était créé. On avait fini déjà tout de suite. Ça paraît être à peu près au milieu. Je ne dis pas le numéro de la page. On avait sa mère tête. Bonsoir. On avait commencé le 5, le Hé, et on avait parlé de la poussière. Et on s'était intéressé à cette notion de poussière. Parce que si Afar... C'est toi qui as pris ton téléphone ? Non. Parce que celui-là...
Et tu m'as dit qu'il allait bientôt s'arrêter.
C'est l'autre. Celui-là, il est bien. Oui. Moi, je l'ai mis à charger.
Mais ça a appelé ou...
Elle a appelé, mais ça s'est coupé. Je crois
que ça s'est coupé tout de suite.
Ça s'est coupé, elle m'a rappelé. Oui, alors, on a, vous vous souvenez, on a parlé de la poussière. Parce que ici, le Midrash, je relis rapidement. Vaya Zaracha ke Afar. Ta descendance sera comme la poussière. C'est ce qui a été donc annoncé à Yaakov Avinu. Et du coup, on s'était demandé, mais la poussière, elle est a priori définitivement stérile. Donc c'est pas en ajoutant de l'eau à la poussière qu'on va faire quelque chose. Donc on avait donc un petit problème. Alors j'ai reçu aujourd'hui un téléphone de Françoise Titeux qui avait écouté le cours et qui m'a expliqué un peu comment ça fonctionnait, parce que comme Ezra n'était pas là, on était paumé. J'avais, comme j'ai dit dans le chiot, que je ne savais pas quoi ça causait. Il m'a un peu expliqué, mais on n'est pas arrivé jusqu'au bout complètement. Il m'a expliqué que comment ça poussait, c'est de la poussière qui effectivement va se... Il y a des petites... En fait, c'est des lichens, paraît-il, qui vont attaquer le rocher, faire des petits trous dans les grains de poussière. Enfin, de la poussière va se mettre dedans, puis ensuite il va y avoir des mousses et des trucs comme ça. Il m'a expliqué comment le sol se fabriquait. Seulement, ce qu'on ne savait pas, c'est d'où viennent les lichens. Alors, elle m'a raconté que les lichens, c'était quelque chose, elle pense, c'était pas tout à fait sûr. C'est la fameuse algue bleue avec un champignon. Et donc là, vous mettez un peu d'huile d'olive et tout, vous touillez. Et normalement, ça devrait donner un bon résultat. Et donc, je sais pas, vous savez d'où viennent ces lichens, effectivement, les algues bleues? Plus un champignon.
Champignon.
Alors, on remonte encore un peu plus loin. Donc, Bukitsour, à un moment donné, quand il a créé quelque chose, puis c'est devenu des lichens, et puis après, etc. Donc, on peut vous expliquer tout ce qui se passe. Moi, il manque le début, parce que le début, plus on remonte, plus il faut se demander, mais. Et celui-là d'où il vient, et celui-là d'où il vient. Mais Kitsour, en tout cas, d'après ce qu'on voit ici, d'après ce qu'elle me disait, on a presque l'impression que c'était un cycle, quoi, parce que la poussière donne de la terre, et ensuite, la terre, elle va reproduire de la poussière, qui ensuite va être dispersée par le vent, et aller faire de la terre ailleurs, en quelque sorte, aller se répandre ailleurs, et éventuellement produire de la terre ailleurs. Alors, est-ce qu'il faut aller jusqu'au bout de cette représentation-là pour dire Vayazaha Kafar Haaretz? C'est-à-dire, est-ce qu'effectivement, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Est-ce qu'il faut uniquement prendre la parole d'Hachem ici comme. Qu'est-ce que c'est Afar? Afar, c'est de la poussière, c'est quoi? Ça veut dire très nombreux, comme des grains de poussière? Qu'est-ce que. Ou alors, d'un autre côté, on a comme les étoiles. Je vous ai dit, c'est les grains de poussière. D'un autre côté, c'est aussi marqué que le sable des mers. Mais ici, qu'un phare, c'est pas. À la limite, ça se compte pas. C'est pas dénombrable, la poussière. Imaginez qu'on compte les grains de sable. On compte les étoiles, mais la poussière, par définition, c'est pas. On ne l'entend pas comme quelque chose de dénombrable. On ne va pas compter les grains de poussière. Et donc, a priori, si on dit Zahra qui est Afar, alors ça ne peut pas vouloir... Ça fait pas référence à un nombre, à une multitude, etc. C'est pour ça que le Midrash, lui, il est parti. Ma Afar Haaretz enomit barech ela bemaim. Alors, la poussière de la terre, elle n'est bénie, ça veut dire elle ne se multiplie. Donc ça devient vraiment quelque chose que grâce à l'eau. Ken banecha en mitbarchim ela bizchut haTorah shenimshela lemayim. Donc de la même manière, tes enfants, dit Hachem à Yaakov Avinu, tes enfants ne seront bénis que grâce à la Torah. Et le Midrash dit, parce que la Torah est comparée à l'eau, donc on va jusqu'au bout de la comparaison terre, enfin poussière plus eau donne une bracha à Fararetz, mais la bracha elle donne quoi? Encore plus de poussière? Normalement quand on donne une bracha, alors ce qui est Midbarer, c'est ce qui est déjà là va se trouver multiplié. Quel intérêt? On dit avec l'eau elle se multiplie la poussière, ça n'a pas de sens. La poussière ne se multiplie pas avec l'eau. D'accord? Ce qui va se multiplier, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer. C'est... Ou alors on dit que ce n'est pas vraiment de la poussière. Qu'est-ce que c'est cet Afar Haaretz? C'est quoi? A priori, nous on avait dit que Haaretz, c'est l'espèce de résidu quand la terre n'a plus aucune humidité, aucune richesse, alors il reste de la poussière que le vent va disperser.
Peut-être qu'il faudrait dire un autre. C'est le terme Afar Haaretz. Si on avait dit Haaretz Afar, alors c'est dans le fait que les deux mots ils soient juxtaposés l'un à l'autre qui donne du sens.
Bon, et à part ça, Afar Haaretz, pourquoi on dit Afar Haaretz? On devrait dire Afar Adama. Non, c'est pas le Afar de Haaretz au sens d'un pays, de politique ou économique, ou etc. C'est Afar Adama. C'est au sens de la terre, de la physique, la terre physique. Oui.
Je rappelle qu'il peut y avoir des éléments minéraux, mais aussi des spores, des traces de végétaux, etc., qui n'attendent qu'une bouteille d'eau pour pousser.
C'est ça, mais à ce moment-là, c'est pas le sens de poussière.
C'est bien pour ça que dans un désert, il ne pousse rien, sauf quand il y a de l'eau, et ça pousse. Il suffit d'apporter de l'eau pour que...
C'est ça, mais est-ce qu'on dira que le désert, c'est de la poussière? Je ne sais pas, est-ce que... C'est comme ça, la terminologie, c'est quoi le désert? C'est quoi la terre du désert? C'est quoi? C'est pas de la poussière, c'est de la terre, quand même, non? Non?
Il y a quand même beaucoup de déserts qui sont... Les roches qui sont transformées en... Je ne sais pas si on peut dire que c'est de la poussière, mais qui sont réduites en particules qui ne tiennent pas...
C'est de la silice, enfin bon, silice ou autre chose. Quoi, mais...
C'est de la chose, mais... Et dès qu'on met de l'eau dessus, il se passe quelque chose. C'est pour ça dire que pendant longtemps, on pensait à la génération spontanée.
Il n'y a rien, puis maintenant il y a quelque chose. Ouais. Ah non, c'est...
J'ai l'impression que Midrash, lui, ne se pose même pas la question, puisqu'il dit, comme la poussière de la terre est fertile grâce à l'eau. Alors, ça veut dire que l'eau, bah, pour lui, la poussière de la terre, dès qu'on met de l'eau, ça devient fertile.
Mais quand vous traduisez à fertilité, d'accord, parce que le mot qui est dans le texte, c'est bracha, midbarech, c'est la bracha. Oui, donc il s'agit de bracha. La bracha, c'est une multiplication. Donc, a priori, on multiplie ce qui est déjà là. On ne peut pas donner une bracha sur quelque chose qui n'existe pas. Donc, l'opération bracha, elle ne fait qu'amplifier du déjà là. Alors, ici, on dit, je vais amplifier ce déjà là. Bonsoir. On va amplifier le déjà là et produire... Qu'est-ce qu'on va produire là? Comme s'il y aurait encore plus de poussière, n'est-ce pas? C'est ça l'idée. Parce que quand on veut dire Zaracha, la bracha justement, qui vient sur la descendance, c'est une bracha pour lui dire que sa bracha, sa descendance sera très nombreuse a priori. Donc ça multiplie, c'est un facteur de multiplication, c'est rien d'autre. C'est pas un facteur de transformation. Sans doute, oui. Oui. Oui, mais ce qu'on va produire, c'est du fruit.
D'accord, mais ça n'attend pas qu'il y ait eu une transformation, une opération intermédiaire entre le fruit que j'ai maintenant et les fruits plus nombreux que j'ai ensuite.
C'est juste, mais ici, vous dites, c'est le afar aretz qui va se multiplier. Vous avez afar aretz ici, vous avez afar aretz ici, vous en aurez beaucoup plus. Je veux bien que ça ait passé par autre chose. Mais quel est l'intérêt d'avoir plus de poussière?
Mais on parle bien de l'eau,
aussi en plus. L'en plus, c'est l'eau. J'ajoute de l'eau, et ça donne quoi? Encore plus de poussière, d'après ça. Donc ici, la notion de bracha, si je la prends mitbarer, ça voudrait pas dire qu'on a la même chose que ce qu'on avait au départ. C'est pour ça que la traduction en fertilité, elle est peut-être intéressante, parce que ce qu'on voudrait, c'est que ça soit fertile. Mais même la fertilité, en vérité, c'est quoi? On dit, la terre, elle est fertile, ça veut dire des choses vont y pousser. Mais ce n'est pas qu'elle-même va pousser. Donc, ici, dans ce que vous avez décrit, vous, effectivement, on a de la poussière, on ajoute de l'eau, ça va faire pousser des plantes, quoi, disons. Des plantes qui... Alors, est-ce qu'on va dire qu'elles y étaient d'une certaine manière? Ou elles, disons, en tout cas, par réaction avec l'eau, quelque part, ce qui est dans la poussière plus l'eau va donner cette plante. Disons comme ça. Alors maintenant, on va dire, ta descendance plus la Torah va donner... Voilà, encore de la descendance.
Ça peut apporter la
gourde, tout là. Non, ça c'est autre chose. On parle ici uniquement de la descendance. La zaracha et du barer. Il faut pas, je ne veux pas quitter le midrash.
De ce qu'on disait, la différence entre poussière et la terre, Adama, c'est que la terre Adama, elle est fixe. C'est le sol, elle ne bouge pas. La poussière, on a l'impression qu'elle peut venir n'importe partout, et puis voilà, donc ce qui va se multiplier, c'est la diversité éventuellement que ça permet si c'est fertilisé. Mais elle vient d'un peu partout, il peut y avoir des spores qui viennent de ci, de là, du machin, des bactéries, des cellules. Hein?
Oui, non, je comprends très bien. Alors je me demande seulement, qu'est-ce que je vais prendre de cette image? J'ai compris, je veux bien. Ça arrive à dire, si on veut coller à cette image, ça voudrait dire, on part de Zaracha, ta descendance, et on arrive à quelque chose d'autre. Grâce à ta descendance, éventuellement, mais on arrive à produire autre chose. La Torah plus ta descendance, ça produit autre chose. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas? De la même manière que Afar Haaretz plus l'eau, ça produit des plantes, disons. Alors maintenant, ta descendance plus l'eau égale Torah, ça produit autre chose. Alors qu'est-ce que c'est que cette autre chose?
Ça produit d'être. Ça produit un peu plus, je sais
bien,
la structure.
Non, alors l'idée, ce serait que, en fait, justement, Zaracha n'est pas la copie de... Le Zera qui est produit par la... Si vous prenez une génération, elle étudie la Torah, elle produit une autre génération. Cette génération, elle est suffisamment autre pour qu'on puisse dire que ça ressemble à l'image qui est donnée de la terre qui produit de la plante. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, là, il n'y a plus du tout l'idée
de
multiplication.
Si, ça multiplie quelque chose, mais cette multiplication est une... Alors justement, il va falloir qu'on dise comment cette Parce que comment vous allez dire la plante comme résultante de la multiplication de la, du afar, oui, par l'eau. Bon, c'est le facteur multipliant, c'est l'eau. Mais justement, ce facteur multipliant, il produit quelque chose d'autre quand même. Ça produit autre chose, la plante. Même si vous dites qu'elle était là sous forme de spore, ou elle était, je ne sais pas, sous forme de graines, ou de je ne sais pas quoi. Alors, il y a eu une transformation de l'état de cette graine, de ces spores, ce que vous voulez, pour donner des mousses ou des plantes différentes. C'est-à-dire qu'on avance, en quelque sorte, avec ça. Et donc on aurait cette idée que la génération produite par la génération précédente plus la Torah, c'est autre chose que... C'est une amplification au sens... C'est plus, on pourrait dire, plus grand, plus profond. Je pourrais dire, par exemple, qu'il y a un développement de Torah, mais si je dis seulement ça, c'est un peu... J'ai tourné en rond puisque j'ai ajouté de la Torah, évidemment. Je ne sais pas ce que ça veut dire. L'idée, ce serait... Je prends une génération, je lui ajoute la Torah, et ça produit une nouvelle génération de Torah. Une nouvelle génération avec de la Torah, avec une Torah amplifiée, avec une Torah qui est plus ramifiée, une Torah qui s'occupe de nouveaux problèmes, qui dit des choses nouvelles, basées sur l'ancien, mais des nouvelles choses. Le but de l'exercice, c'est bien ça. C'est comme ça que la transmission de la Torah, qui est la raison pour laquelle Hachem a choisi Abraham, il ne s'agit pas de transmettre telle quelle la Torah d'Abraham ou même celle de Moshe Rabbeinu. Entre Moshe Rabbeinu et Rabbi Akiva, il y a eu tout un développement de la Torah, n'est-ce pas? Alors même si vous dites que tout ce qu'on a enseigné, tout ce qu'Hachem a enseigné à Moshe Rabbeinu, parce que tout ce qui a été par la suite développé, a été enseigné à Moshe Rabbeinu, ça lui a été enseigné sous forme de spores, de graines, etc. Moi je dis c'est un éventail qui était fermé, et avec les générations on a ouvert l'éventail. On a ouvert l'éventail, on s'est aperçu d'une richesse, et on a développé en quelque sorte, comme quand on ouvre l'éventail, développé des motifs dont vous voyez seulement une trace quand l'éventail était fermé. Vous voyez une ligne rouge, là maintenant tout à coup, voilà, c'est tout un, voilà, vous avez tout un papillon rouge, je veux dire, vous n'en voyez pas la trace avant. Vous n'en voyez qu'une trace, mais vous ne savez pas que c'est un papillon, vous ne pouvez pas savoir ce que c'était. Donc la Torah, elle a été enseignée à Moshe Rabbeinu, c'est pour ça que Rabbi Akiva peut dire, je t'enseigne quelque chose, et c'est halakha le Moshe Mitsinaï. Moshe Rabbeinu, il a reçu cette halakha au Sinaï, pas sous la forme sous laquelle Rabbi Akiva l'enseigne, sinon Moshe Rabbeinu l'aurait tout de suite reconnu. Bon, c'était irreconnaissable pour Moshe Rabbeinu. Parce qu'il y a des choses qui sont irreconnaissables, parce que ça a pris des visages nouveaux, mais comme tout le monde est irreconnaissable. Le monde dans lequel nous vivons n'est pas reconnaissable. Pour quelqu'un qui viendrait d'il y a 100 ans, il n'y a rien de commun. C'est pas quelqu'un qui viendrait... ou qui viendrait avant l'invention de l'électricité, avant celle du téléphone, etc. C'est le monde dans lequel il va se trouver, puis il ne comprendra rien du tout. C'est un monde totalement magique, ses yeux ne comprendront rien du tout. Eh bien, la Torah, mon cher Rabbi ne la comprend pas. La Torah de Rabbi Akiva. Seulement, quand on lui donne... lorsqu'il tient la ficelle par les deux bouts, alors il comprend. Il entend ce que Rabbi Akiva lui dit, et on lui dit c'est une halakha que tu as reçue au Sinaï. Alors bon, disons qu'il comprenne quelle halakha c'était au Sinaï. Alors si on lui dit voilà, ça va se développer, ça donne ça, alors parce qu'il est Moshe Rabbeinu, il peut peut-être comprendre comment était le cheminement qui a mené de ce que j'ai reçu à ce qui a été développé, qui a atterri tel que c'est maintenant dans la bouche de Rabbi Akiva. Parce qu'il tient les choses par les deux bouts. Mais tant qu'on ne lui a pas dit que ça partait de chez lui, il dit, mais je ne connais pas ça, moi.
Moi personnellement, je préfère cette vision-là des choses, c'est-à-dire comme un pont entre les différentes générations, qu'une amplification de la Torah. Et je ne suis pas sûr d'ailleurs que cela soit vraiment le sens dans lequel nous amène le Midrash, puisqu'ensuite il dit que d'une part il y a la problématique de cette poussière qui va corroder les corps métalliques, comme les Bnei Israël vont corroder les nations. Et en définitive, ici, on a, j'ai le sentiment effectivement l'idée de pérennité du peuple juif à travers les générations. Et néanmoins, soit je ne dirais pas amplification, parce que après, il finit en disant que néanmoins, aussi les empires nous piétineront. Donc ici, on ne peut peut-être pas parler de façon aussi optimiste et positive d'une amplification de la Torah.
Si, c'est parce que vous pensez que parce que les empires nous piétinent, la Torah n'est pas amplifiée. La Torah, elle était amplifiée par Rabbi Akiva, croyez-moi, et pourtant les Romains ont piétiné Rabbi Akiva, ils lui ont peigné sa chair avec des peignes de fer.
Oui, mais vous disiez...
La Torah était singulièrement...
après.
Quoi après? Oh, mais non, avant.
C'est avant. La problématique, c'est après Rabbi Akiva.
Mais non, c'est avant.
Vous disiez, on a perdu énormément.
C'est-à-dire quoi?
Vous dites à plusieurs reprises que on a perdu énormément. C'est-à-dire ici, les sages même de la Torah d'aujourd'hui ont perdu énormément par rapport justement à cette génération.
Non, mais est-ce qu'ils ont, ils n'ont pas perdu en contenu? Pas perdu en contenu, la Gemara dit exactement le contraire. La Gemara dit, c'est Rabba qui dit, que au temps de Rabbi Yehuda, il avait seulement, il menaçait d'enlever ses chaussures, qui était le commencement du jeûne qu'on faisait pour faire tomber la pluie, et la pluie tombait. Et Rabba il dit, mais nous, sur un sujet où eux, ils ne travaillaient même pas, nous, on a 13 semestres d'études sur Oukti, ils ne connaissaient rien du tout là-dessus, on en connaît beaucoup plus qu'eux. Mais c'est inefficace parce que la Torah, elle veut le cœur, et nous, on n'a pas de cœur. Mais en contenu de dévoilement de Torah, c'est sûr qu'on a dévoilé bien plus de Torah qu'il n'y en avait en son temps. Bien sûr. Et tout ça, ça n'existait pas.
Je
ne
sais pas, j'ai deux avances d'idées que je voulais vous permettre de vous développer. D'une part, je voulais dire que lorsque on dit que dans les générations Zera qui vient, elles sont porteurs d'avenir parce qu'elles sont porteurs de Mashiach. Et ça vient avec les générations. Et il y a cette idée-là. Deuxième idée que je voulais un petit peu me permettre de dire, mais je perds mon mot, c'est que je passe tout de suite à la troisième.
Il n'y en avait que deux au début.
Parce que
c'est la bracha qui.
Kaviarol, même ceux qui font une thèse, il y a Hardy Mekot et Sofol sur Racine. Et il y a tas de choses sur Racine dont Racine serait étonné. Et pourtant, elles sont vraies.
Pourquoi elles sont vraies?
Je comprends bien ce que vous dites que Moshe Rabbeinu a rappelé le code de Shlokhot la première fois. Que c'était inhérent à son œuvre et à sa pensée, mais qu'il pouvait en être surpris parce que ce n'était qu'en germe. Et que Rabbi Akiva, par son génie, a mieux compris que ce que Moshe Rabbeinu a annoncé, mais qu'il n'a pas totalement, parce que ce n'était pas dans son temps. C'était pas de ce moyen, il avait des possibilités. Maintenant, la deuxième idée que je voulais dire, c'est que, je voulais dire que voilà comment je comprenais, je me commente moi-même la notion même de la barre. Je me fais une image qu'un paysan travaille, il bêche, il passe avec la charrue, il transpire, et s'il y a Kala Khalila, il n'a pas de danger. Et s'il y a Baha, ça pousse. Et c'est pourquoi cette image de pluie, parce que c'est une image de la Torah, parce que c'est de cette manière-là qu'Hachem fait que son effort fructifie, qu'il parvient. Parce qu'un effort tout seul n'est pas garanti de résultat. Et il faut une bracha pour qu'elle. Et c'est comme ça que j'ai toujours compris la notion de la bracha. Et je ne sais pas si j'ai eu tort ou raison, mais c'est comme ça, dans mon intuition, en fait, j'ai saisi la chose quand même. Donc ça m'éclaire par rapport à ces textes. Que cette poussière, porteur disséminée, comme a dit l'un ou l'autre ici, parce que le vent la porte, en quelque sorte. Mais avec le Baracha, elle devient à la fois, elle se propage, mais en même temps, elle devient de la terre capable de porter des fruits. Et porter des fruits, ça veut dire amener la machine. Finalement, j'ai réuni, mais je n'ai pas mentionné de ma pensée.
D'accord.
Qu'est-ce que vous en dites?
Je n'en dis rien, c'est on peut toujours dire, on peut toujours faire circuler le Mashiach.
Est-ce que je dors?
Comment voulez-vous que je vous dise? Attends, j'en sais rien. Je ne sais pas, je pense pas que le Midrash ici parle de Mashiach. Du cheminement du Mashiach.
Est-ce qu'on a tort de penser que
on ne peut pas penser tout en termes.
Les engendrements.
Ne pensez pas. Ne pensez pas.
Qu'il n'arrive que par l'engendrement.
Ok, d'accord. Non, d'accord. Ok. Alors, ici, il y a un petit problème encore. C'est Karbanecha en mitbarchin ela bizchut haTorah. On parle ici du zchut de la Torah. On ne parle pas de la Torah elle-même. Le zchut de la Torah chez Nimshelam al-Maim. C'est un. Ici, on n'a pas dit. On a dit la terre, elle mitbarchet par Maim, par l'eau. Pourquoi on n'a pas dit que le Banecha mitbarchin ela batorah? C'est pas la Torah, c'est on peut dire c'est grâce à la Torah, c'est la Torah les transforme en fait. Shrut ça veut dire il y a l'effet de la Torah. L'effet de la Torah, l'effet de l'eau en quelque sorte, c'est pas l'eau elle-même ici parce que c'est la Torah qui est comparée à l'eau, c'est pas le shrut de la Torah qui est comparé à l'eau. C'est la Torah elle-même. Alors si on veut continuer un petit peu pour essayer de voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que cette deuxième chose? Nimshela, donc, ma afararetz mevale et kol klei matechot ve'u kayam leolam kach banecha mevalin et kol haolam ve'em kayamin leolam. Qu'est-ce qu'on dit là? On dit que la poussière de la terre ici. Elle est mevalé et kol klematechet. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ils ont traduit par corrompre, on peut dire corrompre, ou corrosion. Est-ce qu'ils ont la corrosion, ils ont dit? Corrosion. Donc qu'est-ce que c'est la corrosion? Qu'est-ce qui se passe avec la corrosion? C'est une réaction chimique, n'est-ce pas, qui fait que le métal en question. Il perd de ses qualités, il s'abîme en tant que, si on peut parler comme ça. Alors la terre elle-même, elle a un effet sur les métaux, et elle n'est pas affectée par cela. Eux sont dégradés, sont corrompus, ils sont corrodés, et donc ils perdent leur qualité en fait. Et elles non, la terre non. Et par comparaison, on va dire les bnei Israël mevalin et kol haolam vehem kayamim leolam. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils dégradent, les bnei Israël corrodent le monde, ils corrodent les autres peuples. Allons jusqu'au bout, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ce midrash, n'est-ce pas? Il dit vraiment que tes fils survivront, il dit seulement, aux nations qu'ils auront érodées. Qu'elles ont érodées. Bon. Là, ils ont pris quelque chose d'un peu moins agressif que la corrosion. Enfin, je ne sais pas. L'érosion, la corrosion, bon. Qu'est-ce que ça veut dire? On va gratter, on va détruire, en fait, par corrosion ou par érosion, les peuples. Donc, les Bnei Israël, quand ils viennent au contact de peuples, ils érodent, disons, dans cette traduction-là, ils vont éroder les peuples. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Qu'est-ce que c'est que ce travail-là que font les Bnei Israël? Ils se retrouvent en contact avec les autres peuples et ils les détruisent. Oh, ils les mangent, littéralement, au sens corrosion, c'est une façon de manger le métal.
Tout à fait, c'est ce qu'ils ont toujours dit.
Non, mais je ne m'occupe pas de savoir ce qu'ils ont dit, mais nous ici, nous disons ça. Nous, dans le Midrash, nous disons ça comme une réalité.
C'est sûrement un autre sens.
Qu'est-ce que les mots, si, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Qu'est-ce que ça vous, qu'est-ce que ça vous évoque? Ça évoque cette corrosion, cette érosion.
Est-ce qu'on ne peut pas se demander une terre qui est sèche, où il n'y a pas d'eau? C'est elle qui devient affaire, qui devient la poussière qui s'éparpille. De fait, effectivement, ça se passe comme ça. Une terre qui est sèche devient poussière et devient sable qui s'éparpille.
Ça, c'est ce qu'on a dit, oui.
Alors, est-ce qu'on ne doit pas comprendre que s'il n'y a pas une nation d'Israël, de peuples qui vivent uniquement au niveau de l'instinct, et souvent de l'instinct réel, se rôde dans ce sens, ne se construisent pas, ne s'épanouissent pas, n'acceptent pas la baraha. Et on rejoint la pensée là, lorsque la baraha dit que tu seras Abraham, tu seras la baraha pour le kolamim, ça veut dire que tu, justement, tu permettras à transformer les instincts sauvages en culture et en valeur.
Voilà, vous écrivez un nouveau midrash.
Hein?
Vous écrivez un nouveau midrash.
Je viens d'arriver, donc. Je crois le midrash aussi contraire au midrash. Je n'ai pas entendu.
Non, vous écrivez un nouveau midrash.
Mais est-ce que la bracha qu'Abraham a reçue n'est pas...
Non, mais
ce, que je viens de dire.
Ce midrash ne parle pas de la bracha d'Abraham.
Non. D'accord, la bonne âme.
L'érosion, peut-être quelques cuisines qui se convertissent.
L'image de... Je ne sais pas, on a encouragé, ça fait longtemps qu'on ne le fait plus, mais il y a eu des moments où on a encouragé. Mais Abraham Avinu, il a encouragé, non?
Qui?
Abraham Avinu.
Oui, mais qu'est-ce qu'il en reste?
Ça, c'est une autre question. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas encouragé.
D'accord.
Alors...
Est-ce que l'érosion, ça aboutit à la destruction?
L'érosion, ça fait que la chose n'est plus là au bout d'un certain temps.
Voilà.
Oui. Alors bon, alors on va dire, mais le problème ici, c'est quoi?
L'image que tu as tout à l'heure utilisée par ton rabbi, du métal et qui devient la mouille, ça veut dire tout simplement qu'il est un autre objet. Ça ne veut pas dire qu'il se détruit. Et la mouille, c'est aussi un produit, ça ne veut pas dire qu'il est nécessairement négatif par rapport à ce que le métal apporte.
Alors,
il a
alors, une si, autre alors, si c'est, alors si c'est comme ça, alors la traduction rouille est mauvaise.
Bon.
Parce qu'ici, on voit très bien qu'ils ne sont plus là, les peuples. C'est par opposition que...
Les anciens peuples idolâtres, vous voulez dire.
Non, ici, c'est écrit explicitement que les peuples ne sont plus là, puisque on dit, par les Bnei Israël, ils survivent. Donc, ça veut dire que les autres n'ont pas survécu.
Mais c'est vrai que les civilisations ont disparu.
Mais oui, d'accord, mais c'est... le problème, c'est les Bnei Israël qui le font.
Mais néanmoins, comme si c'était une conséquence de cette érosion, elles sont piétinées par...
Non, non, ça c'est deux choses différentes, je crois.
Mais c'est très bien.
Mais je ne sais pas, pour l'instant, ça c'est, vous le liez comme ça, mais c'est présenté dans le Midrash différemment. Dans le Midrash, il traite ce problème-là d'abord de l'érosion, de la corrosion des peuples par les Bnei Israël. Oui, tout de suite après, mais
alors,
ça c'est tout de suite
après. C'est quand même très
mais, mais les autres, l'autre, le premier aussi, on a dit là que la poussière est nommée de Barrette. Les trois choses sont dites l'une après l'autre. Une, c'est un problème de bracha. L'autre, ici, c'est un problème de destruction des autres. Et le dernier, c'est un problème de piétinement par les autres des Bnei Israël.
Est-ce que dans la première partie, là, lorsque de la phrase... Voilà. Est-ce qu'il faut comprendre que ces parties métalliques deviennent de la poussière? Est-ce qu'elles arrivent à un statut identique de Afar ou non?
précise si vous voulez. A priori, ça n'existe pas. Hein. C'est un certain Lavoisier qui indique que ça n'existe pas.
Voilà.
D'accord. C'est pas. C'est une disparition des nations comme telles. Mais maintenant, ils sont devenus, qu'ils soient devenus poussière ou particules X, Y ou Z.
Parce que je me posais la question là justement, parce que pour lier à la première proposition que de la poussière à laquelle on a rajouté de l'eau, on est arrivé à un autre état, qui n'est plus l'état de poussière, c'est ce que je peux comprendre de ce que vous avez dit.
Mmh.
Eux, avec la confrontation, ceux qui sont en fer, avec la confrontation de la poussière, arrivent à un autre état. Et cet autre état, peut-être, si on prenait la proposition que c'était la poussière, ils arriveraient à l'état que nous avons abandonné. Par l'afflux d'eau de Torah.
Vous voulez dire que lorsque les Israël se confrontent avec les nations se, disons, deviennent poussière, deviennent particules, et les Bnei Israël survivent malgré ça. C'est pas un choc frontal où tous les deux sont morts, quoi. Mais il y en a un qui érode, corrode l'autre. Il y en a un qui reste et ils ont effrité complètement les nations. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, qu'est-ce que ça dit quoi du clan d'Israël, ça?
Si vous permettez, les nations peut-être disparaissent, mais en réalité, ils se transforment, ils passent dans d'autres. L'Empire perse a disparu, ou le Mède, mais un a versé la civilisation hellénique, grecque, a disparu, mais elle a donné naissance à la civilisation occidentale aujourd'hui. Et la pensée juive a certainement contribué à cet accouchement.
Dans ce cas-là, ça serait positif pour eux, alors ça ne l'est pas.
En tout cas, le progrès du monde s'est fait à travers ça. Je ne suis peut-être pas le Midrash, mais oui. Je suis ma connaissance de ce que
oui, ça j'ai bien compris. Oui. Ça, j'ai bien compris.
Je connais l'histoire, mais je pense qu'il y a de ça dans le Midrash.
Là, on n'entend pas du tout parler de progrès.
Pardon ?
On n'entend pas parler de progrès.
Non, personne ne dit, on parle que de la destruction. On parle de la destruction qui singularise Israël, parce qu'Israël, lui, n'est pas détruit. C'est-à-dire que c'est un processus, on pourrait imaginer un processus dans lequel les deux se détruisent en s'opposant. On pourrait imaginer un processus dans lequel l'un va phagocyter l'autre, manger l'autre, quoi. Et ici, c'est un processus où tout ce qui est dégradé, et d'Israël, on ne dit pas qu'il a gagné quoi que ce soit, on dit simplement qu'eux, ils ne sont pas dégradés. Eux, ils ne sont pas.
Ils sont piétinés.
Mais d'un autre côté, c'est quand même marqué. Non, mais ça vient après, ça, cette histoire de piétinement. Mais ici, on dit que Banecha mevalin et kol haolam. Vem kayami. C'est-à-dire, ils sont capables de détruire le reste du monde tout en restant, eux, comme ils sont. Comme si le reste du monde ne pouvait pas se confronter. Si Israël est ce qu'il doit être, le reste du monde va, par comparaison avec Israël, par contact avec Israël, ils vont se déliter, ils vont se corroder, etc. Ils vont tomber, disons, en poussière. Enfin, en tout cas, ils vont disparaître en tant que tel.
Est-ce que ça veut dire que la pérennité d'Israël en elle-même produit la mortalité des nations?
C'est ça que ça a l'air de vouloir dire. J'en suis pas tout à fait sûr, mais c'est ça que ça a l'air de vouloir dire.
Des nations ou des civilisations?
Des nations. fait, c'est marqué Kol HaOlam, c'est même pas marqué en termes de nation. C'est le monde entier.
Oui. Est-ce que là, c'est le fait de vouloir prendre un exemple avec de la matière, c'est dire que finalement, il n'y a pas une action mécanique, une action chimique classique. Parce qu'en chimie classique, soit les deux corps, ils restent l'un à côté de l'autre et ils ne se mélangent pas, soit ils se mélangent. Or, là, il y aurait, par l'apport de la Torah, la préservation du Israël par Hachem, une réaction chimique, mais entre guillemets extraordinaire, puisqu'il y a dégradation du deuxième corps, alors que le premier, lui, demeure inchangé. Donc c'est pour dire, on est en dehors des règles de la nature.
Comme dans la réaction chimique, il y a quelquefois une part infime qui transforme. Je ne trouve plus le terme dans le sang, mais je veux dire qu'il y a une barre qui a l'air petite, mais qui transforme le lait en fromage. Et je veux dire que. Hein, le ferment. Le ferment.
Cette opposition, n'est-ce pas, entre. Ou cette comparaison. Les stress sont comparés là aussi à la poussière, de même manière que la poussière, elle reste. Toujours là, les stress aussi, ils sont comme espèce de poussière du monde, quoi, n'est-ce pas. Est-ce qu'Israël est la poussière du monde? Oui, mais justement, comme on dit, la poussière aussi, là, elle est présentée comme agissant sur le métal et le corrodant, c'est pas. Donc effectivement, cette poussière, elle agit, elle corrode, et puis, mais elle est intouchée en fait. Et c'est intéressant, pourquoi ce processus de mevalé? Pourquoi est-ce qu'on. C'est-à-dire que quelque part, la destruction, elle ne se fait pas par la guerre, elle ne se fait pas par. Par une violence, elle se fait de façon, on a l'impression, n'est-ce pas, si c'est comparable à une corrosion ou a priori c'est un processus qui prend du temps, c'est un processus qui se fait pas comme ça du jour au lendemain, ou l'érosion aussi, c'est vraiment cette idée de gratter doucement, de façon presque imperceptible. C'est-à-dire que le cheminement d'Israël contre les nations, si on peut parler comme ça, qui détruit la nation, c'est pas du tout un cheminement d'un affrontement frontal, mais quelque chose de très subtil, comme si on allait faire entrer des valeurs qui en fait vont corroder les nations. Or, on entend, si on l'entend comme ça, on entend un peu ce qui s'est passé. Les Chachamim dans le Midrash, ils disent que quand Lot est arrivé à Sdom, alors, Lot, ils avaient l'illusion qu'il allait transformer Sdom. Et il y a cru jusqu'à la toute fin, puisque à un moment donné, il a été nommé juge, et il a pensé, voilà, j'ai réussi, je vais faire entrer les lois d'Abraham dans les lois de la cité de Sdom. Et tout de suite après, les anges arrivent et ils lui disent, ils disent à Lot, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'on t'a nommé juge pour que tu nous amènes tes histoires d'Abraham, tes lois d'Abraham? On t'a nommé juge pour te mouiller. On veut que tu sois obligé de décider avec nous, et après tu ne nous casseras plus les pieds, tu auras condamné aussi des gens à mort, et tu auras aussi on aura aussi un dossier contre toi, et donc ça sera terminé avec tes histoires. Et on voit aussi que dans la guerre des quatre rois contre les cinq, quand ensuite donc les quatre ont gagné, et que qu'est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils veulent, pourquoi ils font prisonnier Lot, Hazal dit, parce que Lot il ressemblait à Abraham, et ils se sont dit, bon, Abraham il va pas rester indifférent, si on prend Lot comme prisonnier, Abraham va venir faire la guerre, il va nous faire la guerre. Et à ce moment-là ils sont tous d'accord, du coup ils sont neuf, cette fois-ci il y a neuf peuples, tout le monde est d'accord, on fera la guerre contre Abraham, et on tuera Abraham, on fera disparaître cet enseignement d'Abraham qui nous saoule, quoi, qui nous dérange. Et c'est ce qui s'efface. Enfin, la moitié s'est réalisée. Abraham s'est effectivement mobilisé pour aller chercher Lot. Seulement, il a gagné, lui, la guerre. Ça, c'est ce qu'il n'avait pas prévu. Mais on voit donc, un instant, s'il vous plaît. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a, parmi les nations, un inconfort, ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas, en réalité, accepter ces lois. Mais ces lois, elles font néanmoins, ces lois d'Abraham, elles font leur chemin. Lentement, elles font leur chemin. De façon peut-être imperceptible, mais du coup, ça grignote et ça détruit les sociétés sans qu'elles sachent exactement pourquoi elles sont détruites. Elles sont détruites par confrontation avec les valeurs de la Torah. C'est-à-dire, quelque part, elles sont obligées de prendre le contre-pied ou des choses comme ça, et finalement, elles se détruisent parce qu'elles ne supportent pas la confrontation. Et Israël apparaît effectivement comme transformant les nations, mais en les détruisant au sens où on détruit leurs valeurs. Il ne s'agit pas de détruire les gens. Il ne s'agit pas de faire une guerre. Il s'agit simplement de détruire leurs valeurs. Et j'ai pensé que qu'est-ce qui... Le Ramchal explique, le Moshe Chaim Lutzato, il explique dans le Der Hashem, il explique que à la tour de Babel, les nations se sont disqualifiées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en tant que nation, elles ne font plus, elles ne permettent plus de s'approcher d'Hachem en tant que nation. Mais en tant qu'individu, en tant que poussière d'érosion, de corrosion, les individus, eux, ils peuvent s'approcher d'Hachem. Ils peuvent entrer dans le clan Israël s'ils le veulent, ou en tant que tel, si on enlève la notion de nation, et vous avez cette notion de nation qui est enlevée, si on considère que l'humanité est vue comme Bnei Noach. C'est-à-dire, il y a bien des nations, si vous voulez, mais au fond, leur statut, leur rapport avec Hachem, enfin, ils ont tous, en principe, le même rapport avec Hachem. Il y a toujours cette diversité, mais c'est le même rapport, à savoir celui qui est gouverné par les Sheva Mitzvot des Bnei Noach. Il n'y a pas Mitzvot des Français, Mitzvot des Anglais, etc. Chacun va faire ce qu'il... C'est pas du tout qu'on va les obliger à faire exactement la même chose, puisque le code de loi qu'ils vont choisir, ils peuvent choisir ce qu'ils veulent. Chacun, chaque nation, chaque peuple peut choisir le code qu'il veut, pour peu que ne soit en traduction avec les 6 autres mitzvot des Bnei Noach. Ils ne peuvent pas faire une loi comme Asdom qui dira que on n'a pas le droit qu'on va tuer celui-ci ou tuer celui-là, etc. Ça, ils n'ont pas le droit. Ils ne peuvent pas faire des lois qui vont obliger les gens à pratiquer une idolâtrie. Parce que ça, c'est contraire à... Bon, alors, les 6 autres lois, parce que la 7e, c'est de faire des lois, justement. Donc les 6 autres lois sont quelque part des points fixes dans le code qu'ils vont choisir, mais pour le reste, ils sont libres. Donc chacun va jouer sa partition, bien entendu. Mais on voit très bien que c'est une façon de s'approcher tous ensemble en gardant la diversité d'Hachem, exactement sur le même modèle de ce point de vue-là que les Bnei Israël. Les Bnei Israël, ils ont 613 mitzvot à garder, mais les minagim, les façons de faire, etc., chacun va faire ce qu'il veut. Ne croyez surtout pas qu'on faisait la même chose chez Reuven et chez la tribu de Reuven et la tribu de Shimon. On sait très bien, il n'est plus resté grand chose après, donc. Mais on sait très bien qu'entre le Galil et Yehuda, c'était deux mondes complètement différents à l'époque des Romains. Et même ils avaient, les uns étaient pour la révolte et les autres étaient pour la collaboration, etc. Politiquement, sur tous les plans, ils étaient complètement différents. La mentalité, la Gemara des fois, celui-là c'est un Galilée, c'est celui-là, il est comme ci, parce qu'il vient de Galilée, on le sait, on le connaît. D'accord. Et c'est pourquoi les gens d'Yerushalayim, ou les gens les babyloniens, ils disent, ceux-là, on les connaît, ils sont comme ci, et ceux-là, ils sont comme ça. Pourtant, c'est tous des juifs. Alors, on a l'impression, pourquoi est-ce qu'on dit que bien que eux, les Bnei Israël, ils tiennent jusqu'au bout de en tant que tel, parce que eux sont quand même une nation, enfin une nation un peu spéciale, d'accord. Les Bnei Israël sont un peuple, et les autres ne tiennent pas sous forme de nation, c'est-à-dire ils sont complètement disqualifiés, donc évidemment, puisqu'ils sont disqualifiés, ils n'ont pas de raison, il n'y a pas de raison que ça continue jusqu'à la fin des temps, mais pas du tout pour les individus. D'accord. C'est les nations elles-mêmes qui sont disqualifiées. Et ça, l'érosion, c'est ça l'érosion. L'érosion, c'est comme vous avez tous dit, il ne s'agit pas du tout de le détruire. D'accord. C'est une transformation, mais la transformation, elle va dans quel sens? Elle va dans le sens de la déstructuration, en quelque sorte, des choses. D'accord. Les constructions sont défaites, il reste de la poussière, il reste des Bnei Noach, si on peut parler comme ça, qui sont réduits à la condition de Bnei Noach, si on peut parler comme ça. Mais bien sûr, chacun joue sa partition. Mais la corrosion, elle a fait que la spécificité, elle a un peu disparu au profit de... Il reste les Bnei Noach, c'est-à-dire corrodés, ça ne veut pas dire du tout que tout n'est pas non plus en poussière. Il reste quelque chose de corrodé, c'est pas, il y a une partie qui tombe en poussière et puis il reste un peu de structure, quelques éléments restent, et c'est exactement, me semble-t-il, ce qui se passe ici, ce qui est décrit là dans ce processus.
Là, du coup, parce que par exemple, là, je voulais poser une question, est-ce que l'autre n'a pas échoué parce qu'il était un et qu'il manquait neuf?
Non.
Parce que lorsque dans sa négociation avec Hachem, Abraham a dit, il s'est arrêté à 10. Mais l'autre a dit, était tout seul. S'ils étaient plus nombreux, il aurait peut-être réussi.
Probablement.
Il a dit 10 l'autre.
Probablement qu'on ne pouvait pas. Parce que. Sinon, Abraham serait allé s'installer à Sdom. Abraham, il s'est installé sur la route qui mène à Sdom. On the road, sur la route, mais pas à Sdom. C'est-à-dire qu'il recevait dans sa maison des crapules qui faisaient commerce avec Sdom, mais il n'est pas allé à Sdom. Si Abraham, avec toute sa volonté de faire connaître Hachem partout, etc., il n'est pas allé à Sdom, c'est qu'on ne pouvait pas aller à Sdom.
C'est un lieu de malédiction.
C'est un lieu où les gens ont choisi de... Ils ont choisi de ne pas laisser entrer personne. Quand tu es entré là-bas, tu étais mort.
Et quand vous dites que Israël est une nation différente, mais une nation...
Je ne sais pas, le terme nation, il n'est peut-être pas adéquat, parce que je...
La phrase là, on peut dire qu'il y a une nature différente entre ce qui est poussière et ce qui est métal. Donc c'est pas à coup de métal qu'on casse le métal. C'est avec la poussière qu'on dérobe le métal.
Oui, mais on a l'impression justement que la poussière est moins forte que le métal.
Oui, mais c'est vrai. Il y a la durée.
Alors le problème, effectivement, c'est que ça soit en termes d'érosion ou de corrosion, c'est un truc qui dépend du temps.
Voilà, à force de, la poussière finit par bouffer le métal.
Alors c'est ce qui se passe, en fait, si vous voulez, les civilisations dont Valérie disait qu'elles étaient mortelles, d'une certaine manière, elles sont un peu comme des... Si on regarde une civilisation, c'est un rectangle dont la base serait très étroite, mais il serait très haut. Et les Bnei Israël, c'est exactement le contraire. Si l'axe horizontal, c'est le temps, les Bnei Israël sont quasiment pas de hauteur, mais ils durent longtemps. L'intégrale est bien la même, la surface est la même, si vous voulez, mais c'est posé à l'envers. Les Bnei Israël, c'est très peu de hauteur, très étendu dans le temps, et les nations, ben, c'est pas étendu dans le temps, mais très très haut, beaucoup plus haut que... Donc elles montent très haut, mais ça dure, c'est... Bon, il y en a qui sont quasiment des vols d'Irak, comme on dit.
En fait,
Est-ce que c'est pas le synonyme dans le terme Goy Kadosh?
Ah. Oui.
Vous aviez parlé une fois d'intégrale.
De?
Une intégrale.
J'en ai parlé aussi maintenant. Donc la surface est la même.
Voilà, c'est ça, la surface.
Vrai, la surface du rectangle est la même.
La poussière aussi, elle s'infiltre partout, parce que précisément, elle est extrêmement fine et une volatilité presque spirituelle. Et pourtant, elle peut s'infiltrer même dans les grosses machines.
Oui. Il me semble que c'est quelque chose de ce genre-là que le Midrash veut dire.
Est-ce qu'on ne peut pas poser aussi plus loin après la même phrase, ce qui relève de Tolédot pour Israël et ce qui relève de l'histoire pour les nations? C'est-à-dire que les Tolédot, c'est justement ces générations, c'est ce qu'on a dit dans la phrase d'avant, ces générations qui s'enrichissent les unes après les autres. Alors que l'histoire a une structure apparemment forte et immuable, et en réalité, elle se désagrège au contact de la succession des Tolédo d'Israël. Parce que Israël n'a pas d'histoire à en parler, c'est une succession qui.
Oui, c'est juste que je ne connais pas assez bien la notion d'histoire, disons, du point de vue théorique, pour pouvoir. Ça me semble juste, mais je ne connais pas assez bien ces choses-là. Mais c'est un peu ce que. Il me semble qu'il y avait comme ça une thèse un peu semblable chez Yerushalmi. Chez Yerushalmi dans Zahor. Je me rappelle un peu. Pardon ?
Je
regardez.
Je relirai.
Oui, relirai. Mais
on ne vous explique pas la réaction. Est-ce que c'est une. La confrontation, on ne vous a pas expliqué quand même. On nous dit qu'il y a manifestement un changement d'état sur les autres. On dit que nous, on demeure identique à notre statut.
Je ne suis pas. L'identique. Enfin, ben, j'aime pas l'identique parce que l'identique, ça donne une idée de statique. Et nous, on est justement sans arrêt en mouvement. Le clan Israël est tout le temps en mouvement. C'est ça la caractéristique du clan Israël. Justement, on n'a pas de. Excusez-moi, c'est moi qui donne le chiffre. Excusez-moi, mais il y a une forme de nomadisme du clan Israël permanente, quoi, qui se forme sous forme d'exil, etc., qui fait que bon, on est toujours en mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Et quelque part. Et ce qui fait que les nations se détruisent, c'est quand elles deviennent trop assises et qu'elles croulent sous leur propre poids, que l'Empire romain il est tombé sous son propre poids.
Tout à fait.
Maintenant, j'ai quelque chose que j'ai évidemment oublié. Oui.
Mais en tant que foi, c'est qu'il y a comme ici.
Plus fort, s'il te plaît, parce que j'en entends pas quand tu parles. Je te regarde tout à l'heure.
Il y a quand même ici une idée que Israël n'est quelque part n'est pas altéré. Même si altéré. Donc, c'est ça que j'ai.
Non, mais je crois que justement, cette idée qu'Israël. Bon. Il ne faut pas le dire en termes de non-altération. Il faut dire qu'il reste Israël, mais peut-être que le sod d'Israël. C'est justement cette capacité de jamais s'arrêter. Les nations, elles s'arrêtent parce qu'elles ont un territoire, parce qu'elles ont. Etc. Et que nous, par définition, on n'en a pas. Même il y a quelques temps où on était sur ce territoire, on a été recraché par notre propre territoire. C'est pas deux fois. N'est-ce pas? Donc, quelque part, cette forme de nomadisme du clan Israël s'oppose effectivement à. aux formes stables de d'urbaniste ou peu importe, mais en tout cas de Umot HaOlam, ben c'est Caïn et Hevel, je veux dire. Pas Caïn, il est attaché à la terre. Hevel, il peut se promener où il veut. Parce que ses troupeaux, ils vont aller où ils veulent. Alors.
Je date sur ce terrain-là. Je pensais que vous alliez plutôt nous parler de la spécificité de ce manque d'altérité, d'être altéré, on va dire.
Non, mais je ne crois pas du tout que. Moi, je ne crois pas que.
N'allons pas par le nomadisme et donc en fait la galoute.
Oui, parce que le galoute, pour nous, c'est vrai que, si vous voulez, la notion de galoute, elle est négative parce que, bon, c'est une sanction. Mais d'un autre côté, on dit, pourquoi on va en galoute? On va en galoute parce que, justement, on a des choses à rattraper. Il y a des choses qu'il faut qu'on aille chercher. Et on ne peut pas aller les chercher autrement. Oui. On ne peut pas aller les chercher autrement qu'en allant sur place. Si tu ne vas pas sur place... tu ne pourras pas récupérer ces étincelles, ces choses qu'il faut récupérer. Il faut qu'on aille là-bas, qu'on rayonne un peu, qu'éventuellement des gens viennent, qui sont capables, eux, de ramener ces étincelles, qui mènent dans Israël. Et ça, c'est pas possible, ça n'est pas possible, si vous voulez, si vous êtes à un endroit fixe, et même si vous envoyez des légions, etc., pour conquérir des territoires, etc., vous n'y vivez pas, et donc ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir d'effet. Alors ce que je crois, c'est que je ne crois pas du tout qu'Israël n'est pas altéré. Au sens, il n'est pas altéré au sens où il ne devient pas autre. Mais par définition, la structure du clan Israël est une structure de vie, si vous voulez. C'est comme si vous me disiez qu'on n'est pas altéré, mais si on n'était pas altéré, on ne pourrait pas survivre. Il faut bien qu'on accepte, il faut bien que notre corps accepte, il faut qu'il accepte l'hiver, il faut qu'il accepte l'été, il faut qu'il accepte toutes sortes de choses qui le bouleversent, il faut qu'il accepte un vieillissement, il faut qu'il accepte ce contact avec ses peuples à l'échelle du clan. Il faut se confronter avec cela, il faut se confronter là, et tous nos problèmes, c'est obligé de se balader dans un monde qui n'est pas le nôtre. Je vais essayer de parler de ça un peu au mois de ces Shabbat. On se promène dans quelque chose qui, pour les Chachamim, est quasiment une espèce de marécage. On est dans une espèce de marécage et il faut marcher suffisamment vite pour ne pas couler. Il faut arriver à se déplacer sur ce marécage. Chazal disent, pourquoi Hachem a tellement aimé les Avot? Pourquoi il les aime tellement? C'est marqué que Ayuratzim le Fanav que Sous. Il courait devant lui, les Avot, comme un étalon court de Bitsé à Maï. Il court sur le sable mouillé, ou si vous voulez, Bitsé à Maï, c'est un bot, ça veut dire un marécage. Un marécage, c'est-à-dire des morceaux, des îlots de terre, un petit peu, puis il y a plein d'eau, etc. Donc il faut être extrêmement léger et courir très vite, presque pas toucher terre. Comme le font les étalons quand ils courent à toute vitesse, ils ont l'impression qu'ils volent. C'est ça que les Avot faisaient. Ils étaient dans le monde, pardon ? Tous les Avot. Tous les Avot, dans leur avoda, ça consistait à courir comme des étalons, c'est-à-dire jusqu'à perte de souffle complet, court devant Hachem. On voit très bien, quelqu'un comme Abraham, il reçoit les étrangers, là il est malade, il court. Ratz Abraham, il court. Ratz, courir, c'est la même, c'est les deux premières lettres de Ratzon, qui est la volonté. Quelque part, si vous voulez, si on ne court pas, c'est qu'il manque la racine de la volonté. La volonté s'exprime obligatoirement, une vraie volonté, c'est ça court. Tu ne restes pas sur place. Donc c'est vraiment ça la caractéristique du clan Israël. Et c'est comme ça qu'ils ont érodé probablement les autres. Donc, voilà, c'est... Alors maintenant, je pense toujours, quand je parle de cette érosion, c'est-à-dire, quand je vous ai dit, on amène des valeurs qui grignotent un peu, Je pense à la phrase de Raymond Aron qui disait que le maoïsme, le communisme, c'était une ruse de l'histoire pour amener les valeurs occidentales en Chine. C'est comme ça que Raymond Aron le disait. Il a dit valeurs occidentales. Les valeurs occidentales, c'est une sécularisation, une déformation, etc., des valeurs de la Torah. D'accord. Et il y a des. Et donc, si je comprends, enfin, si j'interprète, je pense que lui pensait peut-être autre chose, mais. En tout cas, moi, cette phrase-là, je l'entends comme ça. Je l'entends vraiment comme, voilà, il y a une forme de... Comment imaginer la diffusion des valeurs de la Torah, si vous voulez, en Chine ou ailleurs? Comment c'est possible? Alors, maintenant, c'est en train de se diffuser par le biais du capitalisme, je veux dire. D'accord, c'est-à-dire qu'il n'a pas complètement raison, Raymond Aron. Peut-être que ça a commencé par le communisme. Et puis ensuite, le communisme a cédé la place, comme il a cédé la place partout dans le monde, à une forme de capitalisme, et donc maintenant c'est le capitalisme qui amène les valeurs aux occidentales, peut-être pas les meilleures d'ailleurs, parce que peut-être les Chinois ils ont des meilleures valeurs que nous dans certains domaines, enfin que nous, je sais pas pourquoi je dis nous, mais que les occidentaux. c'est un abus de langage.
C'est-à-dire que là vous faites l'hypothèse que finalement avoir été maoïste c'était pas complètement une mauvaise chose.
Oui, je vous rassure. Non, c'est pas un plaisir pro domo, j'ai jamais été maoïste. Alors, il reste encore cette histoire du piétinement. On peut encore regarder ça maintenant avant. On va essayer de dire deux, trois mots. Non, mais je veux terminer. Oui, non, mais.
Comment il sera?
Je sais pas pour l'instant. C'est comme ça que Khazal dit. Regardez la Gemara.
Moi, je.
Et Yaakov, il n'a trouvé non plus.
Ah oui, il a traversé l'Aram jusqu'en Égypte.
Et alors
une vie de souffrance et de course.
Et là, vous
alors, Israël n'est jamais sorti.
Il n'est pas sorti d'Eretz Israël. Voilà. Vous voyez que c'est le seul moyen de courir, sortir d'Eretz Israël. Donc, on peut courir en Eretz Israël.
Nous courions entre les nations.
Ok. Lui. Ils n'ont pas couru entre les nations. Ils ont couru. Le Fanav, devant Hachem. Alors, de la même manière, Ma'afar Asui Daish, la colle, Kach Banecha Asuin Daish le Malchuyot. Adaudirtiv, Vesamtia Beyad Mogaïch, Ma'u Mogaïch, Ilen Dim Migin Mechatich, Dim Mikatich, Umiasrin Otach, Umatishin et Kochech, אפילו כן לטובתך מקשקשין ומרקים לך מן חוביך. כמו דתמה, בואו לא, זה קונטינוי אחרי. On va pas tout regarder, mais juste cette idée de Daïch. Daïch, la chaune Dash, ouais. Dash, c'est ce qu'on écrase avec les talons. Dashin, Dash, c'est foulé, en quelque sorte. D'accord? Daesh s'est foulé, donc écrasé et marché dessus. Donc la terre, elle est Daesh la colle, ça veut dire elle est foulée par tous. Afar, la poussière de la terre, tout le monde marche sur la terre, donc elle est écrasée. Kach banecha asuyin Daesh le malchuyot. De la même manière, tes enfants, il dit à Yaakov, ne t'imagine pas que parce que je t'ai dit qu'ils auront une bracha, et qu'ils vont corroder les nations, et eux, ils vont durer tout le temps, c'est pas une promenade de santé. Bon, ça sera... ils vont être écrasés au fur et à mesure par les nations. Les nations vont les écraser. Mais la terre, quand elle est écrasée, elle continue d'être. Les autres, tout le monde marche sur la terre, mais la terre est toujours là. La poussière de la terre, elle est toujours là. Les nés d'Israël vont être écrasés. Bon, Hachem lui annonce tout de suite, ne crois pas que ça va être drôle. C'est pas facile. Ça sera douloureux, écrasé par les malchouyot. C'est-à-dire les royaumes, les puissances, donc, vont écraser tes enfants vont être écrasés. Les Nésraël vont être écrasés. Alors j'amène là-dessus un passouk, mais il faudra qu'on regarde ce passouk d'un peu plus près. Un long passouk avec des mots un peu spéciaux. Mais en tout cas, ce qu'on dit là ici en bas de la page, on dit mais afilouken le tovater. En vérité, tout ce qu'ils te font, c'est bien pour toi parce que Marquin lach min chovich. Vous avez des fautes, vous avez fait des fautes. Eh bien, cette souffrance-là qu'il vous impose vous débarrasse, vous lave, vous débarrasse de ces fautes. Donc voilà, c'est sûr que c'est douloureux, mais il y a un profit. Même ça, c'est aussi à ton profit. Comme si, d'une certaine manière, vous allez vivre tout le temps, mais au fur et à mesure, vous allez passer par des royaumes qui vont vous écraser, d'accord ? Et parce que, peut-être, la condition pour pouvoir vivre jusqu'au bout, c'est que on cumule pas. Et le problème, c'est le cumul des fautes. N'est-ce pas ? Il y a des tas de choses qui se cumulent et qui ne s'en vont pas quand ça cumule, que ce soit, je ne sais pas moi, il y a des drogues qui cumulent, qui se cumulent. D'accord, elles mettent, je ne sais pas, 90 ans pour s'en aller, alors vous avez, ça cumule et donc on est mort, quoi, finalement. Eh bien les fautes, elles s'accumulent, et pour éviter qu'elles s'accumulent, il faut bien les extirper, il faut payer pour... Il faut faire tchouva, et la tchouva est probablement aussi qu'on en passe par certaines épreuves pour payer en quelque sorte de notre personne pour des fautes qu'on a faites et qui sont suffisamment graves pour qu'il faille payer de sa personne. Mais ça, c'est... Les nations vont vous écraser. Alors bien sûr, ce qui est un peu étonnant, c'est que d'accord, on va être écrasé comme la terre. Mais quel profit, la terre elle-même, pourquoi elle est écrasée en fait ? Je veux dire, pourquoi elle, au sens de quel profit ou quel. C'est quoi ? C'est l'essence de la poussière de la terre que d'être écrasé ? Par définition, si les hommes marchent, ben, ils écrasent la poussière. C'est son essence. On ne peut pas imaginer que la poussière ne soit pas écrasée par les hommes qui y marchent. Sur cette poussière. Et donc, est-ce que là aussi, on doit dire, on ne peut pas imaginer que les Bnei Israël ne soient pas écrasés, si de temps en temps, au moins, par les nations, par les royaumes en l'occurrence, les Malchouyot. Alors, les pouvoirs vont vouloir écraser le clan Israël. Ben, c'est pas, on n'a pas dit ici que les Umot HaOlam vont nous écraser. On dit les Malchouyot, les royaumes. C'est-à-dire les pouvoirs.
Les empires.
Quelques. Oui, ma faute, oui. Si.
Troisième Reich.
Pourquoi est-ce que ce sont les Malchouyot qui nous écrasent ? On aurait pu imaginer, bon, les goyim vous font du mal, quoi, c'est tout. S'il faut souffrir pour que les fautes soient effacées. Ça aurait pu être, mais ça s'est fait aussi. Je veux dire, on n'a pas souffert que des malchouyotes. On n'a pas souffert que des malchouyotes. Ou alors il faut dire que, par exemple, ça fait 2000 ans qu'on est sous la malchouyote des Saves. Edom. Qui a des visages différents, qui a été l'Empire romain, la chrétienté, je sais pas, la Russie, les États-Unis, je ne sais pas. Quelles sont toutes les formes par lesquelles passe Edom. C'est ça la caractéristique d'Edom, c'est que lui aussi, il se transforme, en fait. Alors, on aurait pu aussi... Au temps de la Gemara, on voit très bien que pour eux, Edom, c'était Rome. Mais Rome n'existe plus. Et pourtant, on est encore dans le galout d'Edom. Eh bien, qu'est-ce qui a pris la suite de Rome ? C'est la chrétienté, pour nous. Après, il y a la chrétienté plus l'islam. Et après, je ne sais pas, après il faut dire... Je ne sais pas dire, il paraît qu'il y a 10 étapes dans les dômes. Certaines de la dernière étape, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas.
Est-ce qu'on peut dire que les Malchouyot, c'est ce qui fait métal dans la phrase précédente, alors que l'égoïsme en tant que tel, en tant qu'individu, c'est la poussière qui reste après l'érosion. c'est pas l'égoïsme en tant que
c'est pas le peuple.
Statistique ou collection d'individus, c'est.
C'est le pouvoir.
C'est
qu'un pouvoir.
Est-ce qu'on ne peut pas penser que le Troisième Reich est une affaire du Manfriat ?
Pourquoi pas ?
La faute.
Pourquoi pas ?
Il se définissait comme ça.
Oui, non, bien sûr.
Un empire qui aurait vécu 1000 ans.
Non, mais. Malchut, c'est pas vu comme un empire. Malchut, il n'y a pas de notion d'empire dans la Torah. Il y a un royaume, c'est tout.
Le roi, c'est un empire.
Non, mais c'est Malchut. Malchut Arisha.
Il n'y a jamais eu roi à Rome. Il y a eu l'empire romain, il y a eu le
mais qu'est-ce que ça a la différence entre un empereur et un roi ?
Ça change rien.
C'est une autre structure. Oui. Napoléon ne s'est pas comparé à un roi, mais il voulait reproduire l'empire.
C'est
les
multiples visages des
arbres. De César.
Voilà, on va s'arrêter là.